Kant, Critique du jugement, première partie, Critique du jugement esthétique, première section, Analytique du jugement esthétique. Remarque générale sur l'exposition des jugements esthétiques réfléchissants. Relativement au sentiment du plaisir, un objet doit être rapporté, ou à l'agréable, ou au beau, ou au sublime, ou au bien absolu. Jucundum, agréable, pulchrum, beau, sublimé, sublime, honestum, bien absolu. L'agréable, en tant que mobile des désirs, est toujours de la même espèce, de quelque source qu'il vienne et quelque différente que soient spécifiquement les représentations du sens et de la sensation objectivement considérées. Aussi, quand il s'agit de juger de l'influence de l'agréable sur l'esprit, ne considère-t-on que le nombre des attraits, simultanés et successifs, et pour ainsi dire la masse des sensations agréables. Et c'est pourquoi ce jugement n'est possible qu'au moyen du concept de la quantité. Il n'y a point de culture à attendre ici, tout se rapporte à la jouissance. Le beau exige au contraire la représentation d'une certaine qualité de l'objet, qu'on peut aussi rendre intelligible et ramener à des concepts, quoi qu'on n'y ait pas recours dans le jugement esthétique, et qui cultive l'esprit en appelant son attention sur la finalité qui se manifeste dans le sentiment du plaisir. Le sublime consiste uniquement dans la relation d'après laquelle nous jugeons le sensible dans la représentation de la nature comme propre à un certain usage suprasensible possible. Le bien absolu, considéré subjectivement d'après le sentiment qu'il inspire, ou comme objet du sentiment moral, en tant qu'il est capable de déterminer les facultés du sujet par la représentation d'une loi absolument nécessaire, a surtout pour caractère distinctif la modalité d'une nécessité reposant a priori sur des concepts, qui ne prétend pas seulement à l'assentiment de chacun, mais qui l'ordonne, qui n'appartient pas en soi au jugement esthétique, mais au jugement intellectuel pur, et qui est attribué à la liberté et non à la nature, par un jugement déterminant, et non par un jugement réfléchissant. Mais la possibilité d'être déterminé par cette idée pour un sujet qui peut trouver des obstacles en lui-même, dans la sensibilité, mais qui en même temps peut sentir sa supériorité sur ces obstacles en triomphant, en modifiant son état, le sentiment moral, en un mot, est lié au jugement esthétique et à ses conditions formelles, en ce sens qu'on peut se représenter comme esthétique, c'est-à-dire comme sublime ou même comme belle, la moralité de l'action faite par devoir, sans altérer en rien sa pureté, ce qui n'aurait pas lieu si on cherchait à l'unir par un lien nécessaire au sentiment de l'agréable. Si on veut tirer le résultat de la précédente exposition des deux espèces de jugement esthétique, voici les courtes définitions qui en sortiront. Le beau est ce qui plaît dans le seul jugement, et non pas par conséquent au moyen de la sensation ou suivant un concept de l'entendement. Il suit de là naturellement qu'il doit plaire sans aucun intérêt. Le sublime est ce qui plaît immédiatement par son opposition à l'intérêt des sens. Tous deux, comme expression de jugement esthétique universel, se rapportent à des principes subjectifs. Soit que la sensibilité se trouve satisfaite en même temps que l'entendement contemplatif, ou qu'elle se trouve contrariée, mais au profit des fins de la raison pratique. Et tous deux, unis dans le même sujet, ont un rapport avec le sentiment moral. Le beau nous prépare à aimer quelque chose, même la nature, sans intérêt. Le sublime nous prépare à l'estimer, même contre notre intérêt sensible. On peut définir ainsi le sublime, c'est un objet de la nature dont la représentation détermine l'esprit à concevoir comme une présentation d'idées l'impossibilité d'atteindre la nature. À la lettre et logiquement parlant, il n'y a pas pour des idées de présentation possible, présentation dans l'intuition. Mais lorsque nous étendons notre faculté empirique de représentation, mathématiquement ou dynamiquement, dans l'intuition de la nature, la raison intervient infailliblement, qui proclame l'indépendance de la totalité absolue, et pousse l'esprit à faire effort, quoique inutilement, pour approprier aux idées la représentation des sens. Cet effort et le sentiment de l'impuissance de l'imagination à atteindre les idées est lui-même une présentation de la finalité subjective de notre esprit dans l'emploi de l'imagination pour sa destination suprasensible, et il nous force à concevoir subjectivement la nature même dans sa totalité comme une présentation de quelque chose de suprasensible, quoique nous ne puissions pas arriver objectivement à cette présentation. En effet, nous remarquons bientôt qu'à la nature considérée dans l'espace et dans le temps manque entièrement l'inconditionnel, par conséquent aussi l'absolue grandeur que réclame cependant la raison la plus vulgaire. C'est précisément par là que nous sommes avertis que la nature n'est pour nous qu'un phénomène et que nous ne devons la considérer que comme la simple présentation d'une nature en soi dont la raison a l'idée. Or, cette idée du suprasensible, que nous ne déterminons pas davantage, en sorte que nous ne pouvons pas la connaître, nous pouvons seulement penser la nature comme sa présentation, cette idée est éveillée en nous par un objet tel que le jugement esthétique, qui s'y applique, porte l'imagination jusqu'aux dernières limites, soit de son extension mathématiquement, soit de sa puissance sur l'esprit dynamiquement, en se fondant sur le sentiment d'une destination de l'esprit qui dépasse tout à fait le domaine de l'imagination, sur le sentiment moral, et en trouvant à la représentation de l'objet une finalité subjective pour ce sentiment. Dans le fait, il est impossible de concevoir un sentiment pour le sublime de la nature sans y joindre une disposition d'esprit semblable à celle qui convient au sentiment moral. Le plaisir immédiatement lié au beau de la nature suppose et cultive également une certaine libéralité de pensée, c'est-à-dire une certaine satisfaction indépendante de la pure jouissance des sens. Mais ici, c'est plutôt un jeu pour la liberté qu'une occupation sérieuse. Or, c'est là au contraire le caractère propre du sublime, comme celui de la moralité humaine, où la raison fait nécessairement violence à la sensibilité. Seulement, dans le jugement esthétique sur le sublime, cette violence est exercée par l'imagination même comme un instrument de la raison. La satisfaction attachée au sublime de la nature est donc simplement négative, tandis que celle qui s'attache au beau est positive. C'est le sentiment de l'imagination se privant elle-même de sa liberté et agissant conformément à une autre loi que celle de son exercice empirique. Par là, elle reçoit une extension et une puissance plus grande que celle qu'elle sacrifie. Mais le principe lui en est caché, tandis qu'elle sent le sacrifice, ou la privation, et en même temps la cause à laquelle elle est soumise. L'étonnement, voisin de la terreur, le frissonnement, la sainte horreur qu'on éprouve en voyant des montagnes qui s'élèvent jusqu'au ciel, de profonds abîmes où les eaux se précipitent en mugissant, une solitude profonde et qui dispose aux méditations mélancoliques, etc. Ce sentiment n'est pas, si nous nous savons en sûreté, une crainte réelle, mais seulement un essai que nous tentons sur notre imagination pour sentir la puissance de cette faculté, pour accorder avec le calme de l'esprit le mouvement excité par ce spectacle, et pour nous montrer par là supérieur à la nature intérieure, et par conséquent à la nature extérieure, en tant qu'elle peut avoir de l'influence sur le sentiment de notre bien-être. En effet, quand l'imagination s'exerce suivant la loi d'association, elle fait dépendre notre satisfaction de conditions physiques. Mais quand elle se conforme au principe du schématisme de la faculté de juger, par conséquent, quand elle se soumet à la liberté, elle est un instrument de la raison et de ses idées. Et à ce titre, elle éveille en nous cette puissance qui proclame notre indépendance à l'égard des influences de la nature, qui regarde comme rien tout ce qui est grand comme objet de la nature, et qui ne place l'absolue grandeur que dans notre propre destination, la destination du sujet. Cette réflexion de la faculté de juger esthétique, par laquelle nous cherchons à mettre l'imagination d'accord avec la raison, mais sans aucun concept déterminé de cette faculté, nous montre une finalité subjective pour la raison, comme faculté des idées, dans certains objets, à cause de cette disconvenance même qu'ils nous font découvrir entre la raison et l'imagination, considérée dans sa plus grande extension. N'oublions pas ici la remarque que nous avons déjà faite, à savoir que dans l'esthétique transcendantale de la faculté de juger, il ne doit être question que des jugements esthétiques purs, que par conséquent, les exemples ne peuvent pas être empruntés aux objets beaux et sublimes de la nature qui supposent le concept d'une fin, car alors la finalité serait ou téléologique ou fondée sur de simples sensations causées par un objet, plaisir ou douleur. Et elle ne serait point par conséquent dans le premier cas purement esthétique, et dans le second cas elle ne serait point purement formelle. Quand donc nous appelons sublime la vue du ciel étoilé, nous n'avons pas besoin, pour le juger ainsi, de concevoir des mondes habités par des êtres raisonnables, et de considérer les points lumineux dont nous voyons l'espace rempli au-dessus de nous comme les soleils de ces mondes, se mouvant dans des cercles parfaitement appropriés à ces derniers. Il suffit de le voir tel qu'il nous apparaît, comme une immense voûte qui embrasse tout, et ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons lui attribuer la sublimité, qui est l'objet d'un pur jugement esthétique. De même, pour trouver sublime la vue de l'océan, nous ne nous le représentons pas tel que le conçoit un esprit enrichi de toutes sortes de connaissances, que ne donne pas l'intuition immédiate, par exemple comme un vaste royaume peuplé de créatures aquatiques, ou comme un grand réservoir destiné à fournir les vapeurs qui chargent l'air de nuages au profit de la Terre, ou encore comme un élément qui sépare les diverses parties de la Terre, tout en leur permettant de communiquer entre elles. Car ce sont là deux véritables jugements téléologiques. Il faut se le représenter, ainsi que font les poètes, d'après ce que nous montre la vue, par exemple, quand il est calme, comme un miroir liquide, qui n'est borné que par le ciel, ou quand il est orageux, comme un abîme qui menace de tout engloutir. Cela s'applique aussi au jugement sur le sublime ou sur le beau dans la forme humaine. Nous n'en devons pas chercher les principes dans les concepts des fins auxquels sont destinées toutes les parties qui composent cette forme humaine. Nous ne devons pas permettre à la considération de l'appropriation de ces parties avec leurs fins d'influer sur notre jugement esthétique. Car alors, ce ne serait plus un jugement esthétique pur, bien que ce soit pour la satisfaction une condition nécessaire qu'il n'y ait pas de disconvenance entre les unes et les autres. La finalité esthétique est la légalité dans la liberté de la faculté de juger. La satisfaction liée à l'objet dépend de la relation dans laquelle nous voulons placer l'imagination. Mais il faut toujours qu'elle entretienne l'esprit par elle-même dans une libre occupation. Si au contraire le jugement est déterminé par quelque autre chose, soit par une sensation, soit par un concept de l'entendement, il peut être alors légitime, mais ce n'est pas un libre jugement. Quand donc on parle de beauté ou de sublimité intellectuelle, d'abord, on se sert d'expressions qui ne sont pas tout à fait exactes, car la beauté et la sublimité sont des modes esthétiques de représentation, qui ne se rencontreraient pas en nous si nous étions de pures intelligences, ou si nous nous supposions telles par la pensée. Ensuite, quoique toutes deux, comme objet d'une satisfaction intellectuelle, morale, soient conciliables avec la satisfaction esthétique en ce sens qu'elles ne reposent sur aucun intérêt, il est difficile cependant de les concilier avec cette satisfaction car elles doivent en produire un. Et s'il faut que la présentation dans l'intuition s'accorde ici avec la satisfaction du jugement esthétique, cela ne pourrait avoir lieu qu'au moyen d'un intérêt sensible lié à cette satisfaction. Mais cela fait tort à la finalité intellectuelle et lui ôte sa pureté. L'objet d'une satisfaction intellectuelle, pure et inconditionnelle, est la loi morale, considérée dans la puissance qu'elle exerce en nous sur tous les mobiles de l'esprit qui la précèdent. Et comme, à proprement parler, cette puissance ne se révèle esthétiquement que par des sacrifices, ce qui suppose une privation mais au profit de la liberté intérieure, ce qui nous découvre en même temps l'immense profondeur de cette faculté suprasensible avec ses conséquences qui s'étendent à l'infini. La satisfaction au point de vue esthétique relativement à la sensibilité est négative, c'est-à-dire contraire à l'intérêt des sens, et au point de vue intellectuel positive et liée à un intérêt. Il suit de là qu'à juger esthétiquement, on doit moins se représenter le bien intellectuel qui contient une finalité absolue, le bien moral, comme beau que comme sublime. Ce qui est bien moralement excite plutôt le sentiment du respect, qui méprise l'attrait, que celui de l'amour ou d'une douce inclination. Car la nature humaine ne s'attache pas à ce bien moral par elle-même, mais par la violence que la raison fait à la sensibilité. Réciproquement, ce que nous appelons sublime dans la nature, soit au dehors, soit en nous-mêmes, par exemple avec certaines affections, nous ne nous le représentons que comme une puissance qu'a l'esprit de s'élever par des principes humains au-dessus de certains obstacles de la sensibilité. Et c'est par là qu'il est intéressant. Arrêtons-nous un peu sur ce dernier point. L'idée du bien, jointe à l'affection, s'appelle enthousiasme. Cet état de l'esprit paraît tellement sublime qu'on dit ordinairement que sans lui, rien de grand ne peut être fait. Or, toute affection, note, les affections sont spécifiquement différentes des passions. Les premières, les affections, ne se rapportent qu'aux sentiments. Les secondes, les passions, appartiennent à la faculté de désirer et sont des inclinations qui rendent difficile ou impossible toute détermination de la volonté par des principes. Les affects ou affections sont impétueuses et irréfléchies. Les passions sont durables et réfléchies. Ainsi, le ressentiment, en tant que colère, est un affect. Mais comme haine, comme désir de vengeance, c'est une passion. La passion ne peut jamais, et sous aucun rapport, être appelée sublime. Car si dans l'affection, la liberté de l'esprit est empêchée, dans la passion, elle est supprimée. Fin de la note. Or, toute affection est aveugle, ou dans le choix de sa fin, ou, quand cette fin est donnée par la raison, dans son accomplissement. Car c'est un mouvement de l'esprit qui nous rend incapable de toute libre réflexion sur les principes d'après lesquels nous devons nous déterminer. Il ne peut donc en aucune manière mériter une satisfaction de la raison. Cependant, esthétiquement, l'enthousiasme est sublime, car c'est une tension des forces produites par des idées qui donnent à l'esprit un élan beaucoup plus puissant et plus durable que ne peut faire l'attrait des représentations sensibles. Mais ce qui paraît étrange, l'absence de toute affection, apatia, phlegma insignificatu bono, cette absence de toute affection dans un esprit qui suit rigoureusement ses principes immuables est sublime. Et d'une espèce de sublimité bien plus grande, car elle a aussi pour elle la satisfaction de la raison. Cet état de l'esprit s'appelle noble, et cette expression s'applique ensuite aux choses, par exemple à un édifice, à un vêtement, à un certain genre de style, à un certain maintien du corps, et à d'autres choses de ce genre, quand elles excitent moins l'étonnement l'affection produite par la représentation d'une nouveauté qui surpasse notre attente, que produit donc par l'admiration, espèce d'étonnement qui ne cesse pas lorsque la nouveauté disparaît. Ce qui arrive lorsqu'on voit une présentation d'idées s'accorder sans dessin et sans art avec la satisfaction esthétique. Toute affection du genre courageux, à savoir celle qui excite la conscience de nos forces à vaincre toute résistance, est esthétiquement sublime. Par exemple, la colère, le désespoir même, j'entends celui où domine l'emportement et non la lâcheté. L'affection du genre languissant, qui fait de l'effort de la résistance un objet de peine, n'a rien de noble en soi, mais peut se rapporter au beau du genre sensible. Les émotions, qui peuvent s'élever jusqu'au rang d'affection, sont donc très différentes. Il y en a qui sont vives, il y en a qui sont tendres. Quand ces dernières montent jusqu'à l'affect, l'affection, elles ne valent plus rien. Le penchant pour cette espèce d'affection s'appelle la sensiblerie. La douleur qui vient de la compassion pour le malheur d'autrui et qui n'a pas besoin de consolation, ou quand il s'agit d'un malheur imaginaire, celle où nous nous livrons volontairement à l'illusion de la fantaisie, comme s'il s'agissait de choses réelles, cette douleur indique et rend une âme tendre, mais faible en même temps, qui montre un beau côté et en qui on peut reconnaître de l'imagination, mais non de l'enthousiasme. Des pièces de théâtre romanesques et larmoyantes, de fades préceptes de morale, qui traitent comme un jeu ce qu'on appelle à tort les nobles sentiments, mais qui en réalité amollissent le cœur, le rendent insensible à la sévère loi du devoir, incapable de tout respect pour la dignité de l'humanité dans notre personne et pour le droit des hommes, ce qui est tout autre chose que leur bonheur. Et, en général, incapable de tout ferme principe. Un discours religieux même, qui nous engage à captiver la faveur divine par des moyens bas et humiliants, et nous fait perdre par là toute confiance en notre propre pouvoir de résister au mal, au lieu de nous inspirer la ferme résolution d'employer, pour dompter nos passions, les forces qui nous restent encore, malgré notre fragilité, une fausse humilité qui voit dans le mépris de soi-même, dans un repentir bruyant et intéressé, dans une disposition d'esprit toute passive, le seul moyen d'être agréable à l'être suprême, ce sont là des choses qui n'en vont guère avec ce qu'on peut regarder comme la beauté, et bien moins encore avec ce qu'on peut regarder comme la sublimité de l'esprit. Mais aussi, les mouvements impétueux de l'esprit, soit qu'ayant pour but l'édification, ils se lient aux idées de la religion, soit que se bornant à la culture de l'âme, ils se lient à des idées qui renferment un intérêt commun. Ces mouvements, quelque essor qu'ils donnent à l'imagination, ne peuvent prétendre au rang du sublime s'ils ne laissent après eux dans l'esprit une disposition qui ait une influence indirecte sur la conscience de ses forces et sur sa résolution relativement à ce qui renferme une finalité intellectuelle pure, le suprasensible. Car sinon, tous ces mouvements se rapportent au genre d'émotion qu'on aime à cause de la santé, la langueur agréable, qui suit une secousse produite par le jeu des affections, est une jouissance du bien-être qui résulte du rétablissement de l'équilibre dans nos forces diverses. C'est en définitive quelque chose comme cette jouissance que les voluptueux de l'Orient trouvent si agréable quand ils se font masser le corps, presser et plier doucement les muscles et les articulations. Seulement là, le principe moteur est en grande partie en nous, tandis qu'ici, au contraire, il est tout à fait hors de nous. Tel se croit édifié par un sermon où il n'y a rien d'édifiant, où on chercherait en vain un ensemble de bonnes maximes, ou amélioré par une pièce de théâtre, qui est tout simplement joyeux d'avoir bien employé son loisir. Il faut toujours que le sublime ait un rapport avec la manière de penser, c'est-à-dire avec les maximes qui assurent à ce qui est d'ordre intellectuel et aux idées de la raison, la supériorité sur la sensibilité. Il n'y a pas à craindre que le sentiment du sublime perde quelque chose à ce mode abstrait de présentation, qui est tout à fait négatif relativement au sensible. Car quoique l'imagination ne trouve rien au-delà du sensible à quoi elle puisse se fixer, elle se sent cependant illimitée, par cela même qu'on enlève ses bornes, et par conséquent cette abstraction est une présentation qui, à la vérité, est purement négative, mais qui étend l'âme. Peut-être n'y a-t-il pas de passage plus sublime dans le livre des lois des Juifs que ce commandement « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. » Ce seul précepte peut suffire à expliquer l'enthousiasme que le peuple juif, dans ses beaux jours, ressentait pour sa religion quand il se comparait avec d'autres peuples, ou la fierté qu'inspire le mahométisme. Il en est de même de la représentation de la loi morale et de notre penchant à la moralité. Il est tout à fait absurde de craindre que si on ôte à cette loi tout ce qui peut la recommander au sens, elle n'excite plus qu'une approbation froide et morte, et devienne incapable d'agir sur nous et de nous émouvoir. C'est tout le contraire, car là où les sens ne voient plus rien devant eux, et où il reste encore cependant cette idée de la moralité qu'on ne peut méconnaître et dont on ne peut s'affranchir, il serait bien plus nécessaire de modérer l'essor d'une imagination illimitée afin de l'empêcher de s'élever jusqu'à l'enthousiasme que de craindre qu'une idée comme celle-là n'ait pas assez de puissance par elle-même et de lui chercher des auxiliaires dans des images ou dans un puéril appareil. Aussi les gouvernements ont-ils pris le soin de pourvoir richement la religion de cette sorte d'appareil, cherchant par là à enlever au sujet la peine, mais aussi le pouvoir d'étendre leurs facultés au-delà de certaines limites arbitrairement posées, afin d'en faire des êtres passifs, et de les traiter ainsi plus aisément. Cette présentation pure et simplement négative de la moralité élève l'âme, mais elle ne l'expose nullement au danger de tomber dans le fanatisme ou dans cette illusion qui croit voir quelque chose au-delà des limites de la sensibilité, c'est-à-dire qui consiste à rêver suivant des principes, à divaguer avec la raison. L'impénétrabilité de l'idée de la liberté rend en effet impossible toute présentation positive de ce concept. Mais la loi morale est par elle-même un principe suffisant et original de détermination, en sorte qu'elle ne nous permet pas d'avoir égard à un autre motif qu'elle-même. Si l'enthousiasme ressemble au délire, Wahnsinn en allemand, le fanatisme ressemble à la démence, Wahnwitz. Et ce dernier état est de tous celui qui s'accorde le moins avec le sublime parce qu'il est profondément ridicule. L'enthousiasme est une affection où l'imagination a secoué le joug. Le fanatisme, une passion enracinée et sans cesse entretenue où elle est déréglée. L'enthousiasme est un accident passager qui atteint quelquefois l'intelligence la plus saine. Le fanatisme est une maladie qui la bouleverse. La simplicité, la finalité sans art, est comme le style de la nature dans le sublime, et aussi par conséquent dans la moralité qui est une seconde nature, suprasensible, dont nous ne connaissons que la loi, sans pouvoir atteindre en nous par l'intuition la faculté suprasensible qui contient le principe de cette loi. Il faut encore remarquer que, quoique la satisfaction qui s'attache au beau, aussi bien que celle qui s'attache au sublime, ne trouve pas seulement dans la propriété qu'elle a de pouvoir être universellement partagée un caractère qui la distingue des autres jugements esthétiques, mais aussi un intérêt relativement à la société, par laquelle elle peut être partagée, on regarde cependant comme quelque chose de sublime de se séparer de toute société, quand cette séparation repose sur des idées supérieures à tout intérêt sensible. Se suffire à soi-même, par conséquent n'avoir pas besoin de la société, sans être cependant insociable, c'est-à-dire sans la fuir, c'est quelque chose qui approche du sublime, comme tout ce qui a pour effet de nous affranchir des besoins. Au contraire, fuir les hommes par misanthropie, parce qu'on les hait, ou par anthropophobie, parce qu'on les craint, comme des ennemis, voilà qui est en partie odieux, en partie méprisable. Il y a pourtant une misanthropie, très improprement désignée de ce nom, à laquelle beaucoup de bons esprits se sentent enclins en vieillissant. C'est une misanthropie qui n'exclut pas la bienveillance et qui, par conséquent, est assez philanthropique, mais qui, produite par une longue et triste expérience, est bien éloignée de la satisfaction que donne la société des hommes. On en trouve la preuve dans cet amour de la solitude, dans ces vœux fantastiques où notre imagination nous transporte dans une campagne éloignée, ou bien, chez les jeunes gens, dans ces rêves de bonheur où l'on passe sa vie dans une île inconnue au reste du monde, avec une petite famille, rêves dont les romanciers ou les inventeurs de Robinsonnade savent tirer un si bon parti. La fausseté, l'ingratitude, l'injustice, la puérilité dans des choses que nous regardons comme grandes et importantes, et dans lesquelles les hommes se font à eux-mêmes et entre eux tous les maux imaginables. Voilà des vices tellement contraires à l'idée de ce que les hommes pourraient être s'ils voulaient, et au désir ardent que nous avons de les voir meilleurs, que, pour ne pas les haïr, quand nous ne pouvons plus les aimer, l'abandon de tous les plaisirs que peut donner la société paraît un léger sacrifice. La tristesse que nous éprouvons à voir le mal, je ne parle pas de celui que le sort envoie aux autres, la tristesse ici viendrait de la sympathie, mais de celui que les hommes se font entre eux. La tristesse vient ici de l'antipathie des principes. Cette tristesse est sublime parce qu'elle repose sur des idées. L'autre est simplement belle. Le spirituel et profond Monsieur de Saussure, dans la description de ses voyages aux Alpes, dit d'une montagne de la Savoie, appelée Bonhomme, qu'il y règne une certaine tristesse fade. Il reconnaissait donc aussi une tristesse intéressante, comme celle qu'inspirait la vue d'une solitude où on aimerait à se transporter pour ne plus entendre parler du monde et n'avoir plus à l'éprouver. Mais qui ne serait pas sauvage au point de ne présenter aux hommes qu'une misérable retraite. En faisant cette remarque, je veux seulement indiquer que la tristesse, non le désespoir, peut être rangée parmi les affections nobles, quand elle a son principe dans des idées morales, mais que quand elle se fonde sur la sympathie et qu'elle est aimable à ce titre, elle appartient aux affections tendres, et comment, par conséquent, l'état de l'esprit n'est sublime que dans ce premier cas. Si on veut voir où conduit une exposition purement empirique du sublime et du beau, que l'on compare l'exposition transcendantale des jugements esthétiques que nous venons de présenter à une exposition psychologique, comme celle que Burke et chez nous beaucoup de bons esprits ont entreprise. Burke, dans les recherches philosophiques sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, Burke, dont le traité mérite d'être cité comme le plus important en ce genre, arrive par la méthode empirique à ce résultat que le sentiment du sublime se fonde sur le penchant à la conservation de soi-même et sur la crainte, c'est-à-dire sur une certaine douleur qui, n'allant pas jusqu'au bouleversement réel des parties du corps, produit des mouvements qui débarrassent les vaisseaux délicats ou grossiers d'engorgements incommodes et dangereux, et sont capables d'exciter des sensations agréables, non pas un vrai plaisir, mais une sorte d'horreur délicieuse, ou de tranquillité mêlée de terreur. Il fonde le beau sur l'amour, qu'il veut cependant distinguer des désirs, et le ramène au relâchement des fibres du corps, et par conséquent à une sorte de langueur et de défaillance dans le plaisir. Et pour confirmer ce genre d'explication, il n'emprunte pas seulement ces exemples au cas où l'imagination jointe à l'entendement peut exciter en nous le sentiment du beau ou celui du sublime, mais même à ceux où elle se joint à la sensation. Comme observation psychologique, Ces analyses des phénomènes de notre esprit sont fort belles, fournissent une riche matière aux curieuses investigations de l'anthropologie empirique. On ne peut nier non plus que toutes nos représentations, qu'elles soient au point de vue objectif simplement sensibles ou entièrement intellectuelles, peuvent être subjectivement liées au plaisir ou à la peine, si peu remarquables que soient l'un ou l'autre, puisqu'elles affectent toutes les sentiments de la vie et qu'aucune d'elles, en tant qu'elle est une modification du sujet, ne peut être indifférente. Que même, comme Épicure le prétendait, le plaisir et la douleur sont toujours en définitive corporels, qu'ils viennent de l'imagination ou des représentations de l'entendement, puisque la vie sans le sentiment de l'organisme corporel n'est autre chose que la conscience de l'existence, mais non le sentiment du bien-être ou du mal-être, c'est-à-dire de l'exercice facile ou pénible des forces vitales. Car l'esprit par lui seul est la vie, le principe de la vie, et les obstacles ou les auxiliaires doivent être cherchés hors de lui, mais toujours dans l'homme, par conséquent dans son union avec le corps. Mais, si on prétend que la satisfaction que nous attachons à un objet vient uniquement de ce que cet objet nous plaît par l'attrait, par l'émotion, il ne faut demander à personne de donner son assentiment au jugement esthétique que nous portons, car chacun ne peut que consulter son sentiment particulier. Mais alors, disparaît toute critique du goût. L'exemple que donnent les autres par l'accord accidentel de leur jugement, voilà la seule règle qu'on pourrait nous proposer, mais nous nous élèverions contre cette règle, et nous en appellerions au droit que la nature nous a donné de soumettre à notre propre sentiment, et non à celui des autres, un jugement qui repose sur le sentiment immédiat du bien-être. Si donc le jugement de goût ne doit pas avoir une valeur individuelle, mais une valeur universelle, fondée sur cette nature même et non sur les exemples que d'autres donnent de leur goût. S'il est vrai qu'il ait le droit d'exiger l'assentiment de chacun, il faut qu'il repose sur quelques principes a priori, objectifs ou subjectifs, auxquels il est impossible d'arriver par la recherche des lois empiriques des modifications de l'esprit. Car ces lois nous font connaître seulement comment on juge, mais ne nous prescrivent pas comment on doit juger, et elles ne peuvent nous donner un ordre inconditionnel, comme celui que renferment les jugements du goût, qui veulent que la satisfaction soit immédiatement liée à une représentation. Que l'on commence donc, si l'on veut, par une exposition empirique des jugements esthétiques, pour préparer la matière d'une plus haute investigation, soit. Mais l'examen transcendantal de la faculté qui porte ces sortes de jugements est possible et appartient à la critique du goût. Car si le goût n'avait pas de principe a priori, il serait incapable d'apprécier les jugements des autres et de les approuver ou de les blâmer avec quelque apparence de droit. Ce qui nous reste à dire touchant l'analytique du jugement esthétique forme la déduction des jugements esthétiques purs.